Merci d'écouter RFI, il est 5h30 à Paris et Pretoria.
François Ballarin.
À la une de cette première édition d'Afrique Matin, 10 jours après l'investiture de Cyril Ramaphosa, pour un second mandat, le nouveau gouvernement sud-africain dévoilé et la perte de majorité absolue oblige l'ANC à travailler avec d'autres formations politiques. Résultat, un gouvernement composé de plusieurs dizaines de ministres issus de 9 partis différents. La République démocratique du Congo célébrait hier les 64 ans de son indépendance, l'occasion pour le président Tshisekedi de vanter son bilan à la tête du pays, de quoi s'attirer les critiques de l'opposition qui dénonce la corruption et l'insécurité croissante dans l'est du pays. Au Tchad, certains détenus n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Constat alarmant de l'Association pour le soutien aux détenus et ex-détenus, selon qui des entreprises qui fournissent la nourriture dans les prisons n'ont pas été payées. Cette association interpelle les autorités. La percée de l'extrême droite lors des législatives en France vue de l'étranger. Au Gabon, Marcona Essangui, figure de la société civile, troisième vice-président du Sénat, a suivi le scrutin de près. Pour lui, le Rassemblement national tient des discours populistes pour se faire élire. Et Jordan Bardella aura du mal à tenir ses promesses. Dans ce journal, nous sommes aussi à Madagascar, dans l'un des rares centres d'hébergement de sans-abri de la capitale, mais aussi à Marseille, dans le sud de la France, où se déroule le mondial de pétanque. Parmi les équipes attendues, le Bénin. L'Afrique du Sud a donc enfin un gouvernement. Plus de 10 jours après l'investiture de Cyril Ramaphosa pour un second mandat, le chef de l'État a dévoilé un gouvernement d'union nationale extrêmement élargi et on peut parler même d'exécutif XXL, 75 ministres et ministres adjoints, 9 partis différents représentés, un format inédit pour la démocratie sud-africaine alors que le Congrès national africain a dominé le paysage électoral pendant 30 ans. Mais sa perte de majorité absolue lors du dernier scrutin l'oblige à trouver des partenaires. Le chef de l'État et son parti ont donc fait le choix du grand rassemblement, Romain Chanson.
La promesse de réduire le nombre de ministères vient de voler en éclats, car il a fallu faire de la place et contenter tout le monde. Certains ministères sont donc appuyés par 2 ministères adjoints. Attention à ne pas se marcher sur les pieds. L'Alliance démocratique, le parti arrivé deuxième, obtient 6 ministères. Son chef, John Steenhuisen, est nommé à l'agriculture. Le parti obtient aussi le ministère de l'Intérieur, en pleine réforme de l'immigration et alors que le processus d'attribution des visas est défaillant. En revanche, l'ANC conserve les affaires étrangères, sorte de domaine protégé où est promu le jeune Ronald Lamola qui s'est illustré en portant l'accusation de génocide à Gaza contre Israël devant la Cour internationale de justice. Autre nomination marquante, le politicien xénophobe Gayton McKenzie, qui rêvait de l'intérieur ou de la police, doit se contenter des sports et de la culture. Et puis le chef du parti Afrikaner, Freedom Front Plus, une minorité au pouvoir sous le régime d'apartheid, devient ministre des prisons. Le gouvernement est donc un alliage hétéroclite de partis très différents, un gouvernement gonflé à l'hélium que ses opposants essaieront de faire éclater en vol. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
En République démocratique du Congo, aucune activité officielle à l'occasion des 64 ans de l'indépendance ce dimanche, mais des discours. Parmi les prises de parole, celle du président Félix Tshisekedi qui a vanté son bilan à la tête du pays. Une allocution critiquée par l'opposition et la société civile qui l'accuse de démagogie. Et ce alors que l'armée congolaise perd du terrain face aux rebelles du M23 dans l'est du pays. Les précisions de Pascal Moulégois.
Pour l'opposant Moïse Katumbi, il n'y a rien qui marche, la souffrance est totale.
Je me pose la question. Si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour, le social ne marche plus. Nous avons de bons juges, mais il y a l'ingérence dans la justice. Nous cultivons seulement la haine, le tribalisme, le népotisme, la criminalité, le banditisme. Au lieu de réduire le train de vie de l'État pour que la population puisse s'en sortir.
64 ans après son indépendance, d'après Moïse Katumbi, la RDC manque de dirigeants visionnaires. Constat partagé par Martin Failu qui accuse Félix Tshisekedi d'être à la base des maux actuels du pays, à commencer par l'insécurité dans l'Est et la corruption.
Il est impératif de faire la lumière sur toutes les affaires de corruption et de détournement des deniers publics répertoriés à ces jours. Tous les voleurs de deniers publics, anciens et nouveaux, doivent être traduits devant la justice. L'Assemblée nationale et le Sénat, comme les autres institutions du pays, dépensent l'argent des Congolais sans aucun devoir de redevabilité.
Le mouvement citoyen La Lucha affirme pour sa part que la colonisation belge, abrogée en 1960, a laissé la place, je cite, à une caste oligarchique tournante. Le mouvement accuse le pouvoir en place d'avoir hypothéqué l'indépendance et la souveraineté du pays. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Au Tchad, les conditions de vie des prisonniers dans les différentes prisons du pays préoccupent l'association pour le soutien aux détenus et ex-détenus tchadiens. Elle dénonce notamment le manque de rations alimentaires depuis plusieurs jours. La raison, selon l'association, des factures impayées à des fournisseurs. Une situation qui a poussé les détenus à protester ces derniers jours dans certaines maisons d'arrêt. Ilar Memdignar, le président de l'ASDET, interpelle les autorités tchadiennes.
Depuis un certain temps, ces détenus sont manqués crucialement par les aliments, en l'occurrence les rations alimentaires surtout. Puisqu'il est question de régler simplement la facture impayée des fournisseurs pouvant ravitailler aussi ces maisons d'arrêt et en l'occurrence celle de Klesum. Ils n'ont rien présentement à manger depuis plusieurs jours. Imaginez-vous une personne qui est détenue, ça veut dire que celle-ci est privée de tout mouvement. Et ne sachant où aller chercher à manger. Et en province, c'est encore plus grave. Nous demandons simplement à ce que le gouvernement revienne à des meilleurs sentiments pour pouvoir régler la situation des fournisseurs en leur payant aussi leurs factures impayées pour pouvoir ravitailler davantage ces maisons d'arrêt du Tchad. Parce qu'aujourd'hui, quand on prive d'une personne en liberté, cela suppose que on doit subvenir à tous ses besoins vitaux. Je demande au président de la République de revoir la situation des détenus dans tous les milieux carcéraux du Tchad.
Des propos recueillis par notre correspondant à N'Djamena, Olivier Monodji. En Mauritanie, la commission électorale a terminé le dépouillement et la compilation de 100% des suffrages exprimés lors de la présidentielle, mais le pays reste dans l'attente de la proclamation des résultats par la CENI. Ce pourrait être le cas en fin de matinée. Selon les résultats provisoires, le président sortant Mohamed Ould Cheikh Razouani est en tête, mais son principal opposant, Biram Dahabeid, arrivé deuxième lors des deux dernières présidentielles, a déjà fait savoir qu'il ne reconnaîtra pas les résultats de l'élection. Autre scrutin suivi de près à l'étranger, le premier tour hier en France des élections législatives anticipées. Le Rassemblement National est arrivé en tête. Comme souvent, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen a placé au cœur de sa campagne la lutte contre l'immigration. Parmi les autres propositions particulièrement remarquées, interdire l'accès à certains postes dans la fonction publique pour les Français ayant une double nationalité. Marco Naissangui est une figure de la société civile gabonaise. Celui qui est également troisième vice-président du Sénat a suivi le scrutin avec intérêt. Pour l'intellectuel gabonais, Jordan Bardella et le Rassemblement National ne pourront pas appliquer leur programme sur l'immigration. Pour lui, ce sont des discours populistes pour se faire élire. On l'écoute.
Si vous suivez les campagnes électorales dans les différents pays en Afrique, le discours qui est porté sur l'immigration est un discours qu'on retrouve dans tous les peuples. C'est le populisme. Alors face à ce populisme, quelle est la réalité? Les hommes politiques qui discourent ne sont pas toujours ceux qui mettent leur discours en pratique. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Bardella, à la tête du gouvernement français, ne pourra jamais appliquer ce qu'il a prononcé comme discours. Ce sont des discours populistes pour se faire élire.
Mais selon vous, que va changer la reconfiguration politique en France qui s'annonce? Quel impact cela pourrait-il avoir pour le continent africain sur le plan économique et politique?
Je pense que ce sont les relations de coopération entre la France et les pays africains qui vont s'imposer. Je suis gabonais. Ce qui m'intéresse, c'est la relation entre la France et le Gabon. Chaque pays définit la politique de coopération avec tous les partenaires internationaux. C'est valable pour la France, c'est valable pour la Chine, pour la Russie, pour les États-Unis. Je ne pense pas que nous soyons esclaves d'une certaine vision entre la France et l'Afrique. Non, chaque pays va définir sa politique.
Marc Ona Essangui, au micro de Kaourou Magassa, il est le grand invité Afrique ce matin. Au Mali, plusieurs anciens ministres, anciens hauts cadres de la société dans le viseur de la justice. Ouverture ce lundi à Bamako d'une session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers. Elle va siéger pendant environ 2 mois, se pencher sur plusieurs grands dossiers. Ils portent sur des atteintes aux biens publics, blanchiment de capitaux ou encore faux et usage de faux. Au Burkina Faso, fin de semaine meurtrière pour les forces armées, une vingtaine de soldats du 3e bataillon d'intervention rapide ont été tués au cours d'une embuscade samedi à Ouargaï, dans le centre-est du pays. Ces soldats et volontaires pour la défense de la patrie participaient à une opération de ratissage lorsque des groupes armés terroristes les ont attaqués, selon des sources sécuritaires. Et puis dans la région du centre-nord, au moins 15 VDP et plusieurs civils ont été tués samedi lors de l'attaque de la commune de Tougouri, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kaya, selon des sources sécuritaires et des habitants de la région. On reste au Burkina Faso, toujours pas de nouvelles du journaliste Adama Bayala, disparu depuis vendredi, parti de son bureau pour une course. Il n'est jamais revenu, ne répond plus à ses téléphones. Connu pour son franc-parler, il participait régulièrement aux débats sur les médias privés et n'hésitait pas à critiquer les actions du gouvernement de transition.
RFI à Antananarivo, 96 FM.
Et direction donc Madagascar, nous vous emmenons dans un centre d'hébergement de sans-abri situé à l'ouest de la capitale. Il fait partie des rares initiatives de prise en charge des habitants des rues dans le pays. Alors qu'en 10 ans, la pauvreté a explosé dans les villes malgaches, selon les dernières données de la Banque mondiale. Le centre AIM, co-géré par la fondation privée Axian et la commune urbaine d'Antananarivo, accueille 148 résidents. Tous ont connu la violence, les difficultés de la rue ici. Ils ont quelques mois pour se reconstruire, scolariser leurs enfants, se soigner gratuitement. Une réinsertion voulue durable, Pauline Le Troquier, et qui passe aussi par le travail.
Dans cet atelier de couture, Jenny a les mains vissées sur sa machine à coudre. Il y a quelques mois encore, elle vivait seule avec ses 4 enfants dans un abri de fortune, sans aucune ressource. Après 1 an de formation au sein du centre, elle vient de décrocher un emploi en CDI dans une usine de textile.
Le plus important, c'est l'assiduité au cours de couture. J'ai passé des tests pour être embauchée par mon entreprise actuelle qui me paye 260 000 ariars par mois. Et j'ai tout de suite maîtrisé les techniques requises.
Un parcours qui résume à lui seul la philosophie des lieux. Ici, qu'il s'agisse de cuisine ou d'artisanat, chaque résident doit se former. Nirine est responsable adjointe du centre.
C'est vraiment un autre monde par rapport à ce qu'ils vivaient avant le centre. Ils ont ici un toit, des soins médicaux surtout. Ils peuvent manger 3 fois par jour, comme le coutume des Malgaches, mais dans la rue, peut-être une fois, peut-être même pas dans une journée.
Au milieu de la cour, très animée cet après-midi-là, Jeannirène n'a pas quitté sa blouse de travail. Tout juste embauchée dans un restaurant partenaire du centre comme femme de ménage, cette mère de 4 enfants, veuve, aborde l'avenir sereinement.
Je n'ai pas peur de sortir du centre. Mon fils a une maladie chronique, la seule chose que je redoute, c'est que ses soins médicaux épuisent mes économies. Mais je me sens prête à affronter la vie dehors.
Face à l'explosion de la pauvreté à Antananarivo, les responsables du centre appellent les entreprises partenaires, encore trop peu nombreuses, à jouer leur rôle dans la réinsertion des sans-abri. Pauline Troquier, Antananarivo, RFI.
Du sport à présent, et un en l'occurrence qui n'a pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques, la pétanque, qu'à cela ne tienne. À 3 semaines du coup d'envoi des Jeux Olympiques en France, coup d'envoi hier dimanche de la 63e édition du Mondial de pétanque organisé par la Marseillaise. Plus de 12 000 participants, 170 000 spectateurs accueillis pour ce grand rendez-vous des amoureux de la pétanque où se mêlent amateurs et professionnels. Parmi les équipes présentes les plus en vue, celle du Bénin. Reportage de Siam Spencer à Marseille.
Dans les allées du parc Borély, un bruit des plus provençales se mêle au chant des cigales. Provençal, mais pas que. Parmi les 4000 équipes inscrites au Mondial, il y en a une qui se fait remarquer, c'est celle du Bénin, dont fait partie Marcel Bio.
On est prêt, on est venu pour ça normalement. Donc, quelle que soit l'équipe qu'on a en face, on va faire de notre mieux et je suis sûr qu'on va gagner.
Dans l'équipe également, Marcel Bétablé, champion du monde de pétanque 2023 en doublette, pour qui la journée a bien commencé.
On s'est régalé, gagné la première à 13-2. Bon, c'était pas une très grande équipe en face, mais il faut jouer quand même. Il faut jamais sous-estimer une équipe. Il faut finir de gagner avant d'être sûr de soi-même.
Bien loin des ruelles de Cotonou, il a commencé à jouer il y a 12 ans. Ce Béninois de 27 ans a su se faire un nom dans le monde de la pétanque.
Il y a même des inconnus que je ne connais pas, mais eux, ils me connaissent de nom, mais ils ne m'ont jamais croisé. Dès qu'ils me voient, ils sont contents. Oh là là, le Béninois, il est là et tout. Moi-même, ça fait un plaisir.
Samuel, venu de La Réunion, suit son parcours depuis plusieurs années.
Oui, c'est un très grand joueur. Nous, à La Réunion, on est fans des joueurs comme ça. Nous, on regarde toujours la télé. Je l'admire beaucoup, lui, Marcel Bio. c'est des grands champions.
Ça fait partie des personnes contre qui vous voulez pas tomber ?
Plus tard mieux c'est.
La compétition qui se poursuit jusqu'à mercredi où Samuel espère assister à une finale avec, en haut du podium, son équipe béninoise favorite. Siam Spencer, Marseille, RFI.
Et c'est à Marseille avec ces mondiaux de pétanque que l'on achève ce journal, cette édition.
Afrique Matin sur RFI. François Ballarin.
Et vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Nous sommes sur les bords du lac Albert, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Dans les minutes qui viennent, sur place, la surexploitation menace le renouvellement des stocks de poissons. Et vous allez l'entendre, ça ne fait pas vraiment les affaires des pêcheurs. Juste après ça, la chronique des matières premières, on s'intéresse au secteur minier en Afghanistan. Alors que depuis le retour au pouvoir des talibans, des dizaines d'accords ont été signés pour une valeur de plusieurs milliards de dollars. Et puis, à la une du journal de l'Outre-mer, les résultats des élections législatives anticipées en France et la percée du parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National. Il est 6h45 à Moroni. Les Comores, où la gestion des déchets reste un défi majeur à Moutsamoudou, sur l'île d'Anjouan. Malgré la création d'une agence nationale chargée de la gestion des déchets et les efforts de la mairie, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène, entre le manque de moyens, les réticences au changement et une répartition inéquitable des ressources. Aux côtés de la mairie, une association communautaire tente de lutter contre l'insalubrité. Signe de ce climat délétère, Zarouki Bouchran, le maire de Moutsamoudou, a décidé à un an des prochaines élections qu'il ne se représentera pas. Abdallah Mzembaba.
À Moutsamoudou, la mairie a une mission, mais c'est la communauté qui a les moyens. Ici, la gestion des déchets occupe une place centrale. Pendant des années, les déchets étaient jetés à la mer, mais grâce à la FAM, l'association des femmes actives de Moutsamoudou, cette pratique a désormais cessé. Pour autant, les initiatives du maire, Zarouki Bouchran, sont entravées par la réticence des habitants et un manque de moyens logistiques.
Nous avons une parcelle de 3 hectares qui nous avait été donnée par la FAM. Ensemble, on a voulu construire un hangar qui permettait de traiter d'un côté le plastique et de l'autre faire des supports des œufs. Mais tout ça n'a pas été possible parce qu'il nous manque de moyens.
Khadija Abdou Saïd, présidente de la FAM, insiste sur le besoin de financement.
Nous avons présenté des projets auprès des organismes et nous espérons que nous aurons une suite parce qu'on sait que le site ne peut pas être une déchetterie.
Le maire de Moutsamoudou critique l'absence de l'État qui soutient selon lui Moroni seulement.
Je trouve que, en fait, c'est pas normal, puisque les lois de finances concernent Moroni, Fomboni et Moutsamoudou. J'ai du mal à comprendre que, par mois, aujourd'hui, Moroni perçoit 19 millions de francs, 16 pour les déchets et 3 pour le carburant, et qu'à Moutsamoudou, les Fomboni, zéro, zéro, zéro. C'est une irresponsabilité de la part des dirigeants.
En plus du manque de budget, il n'y a pas de loi sur la gestion des déchets. La FAM se focalise donc sur des comités de jeunes de quartier.
Nous espérons que les comités prennent en charge chaque quartier pour pouvoir donc aboutir à cette gestion-là. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la mairie a des problèmes, il y a des problèmes de communication, ils n'y arrivent pas.
Pour Zarouki Bouchran, il y a une volonté manifeste de saboter ces initiatives.
Nous avons eu l'aide des poubelles de 1300 litres qui nous ont été données par la FAM. On a essayé ce système de poubelles qui n'a pas été positif parce que la mentalité des administrés n'était pas à la hauteur des événements. Au lieu de mettre les déchets dans les poubelles, ils les posaient par terre.
Une enquête locale montre que les habitants jettent leurs ordures 6 fois par jour, mais que le camion de la mairie, lui, ne passe qu'une fois par semaine. En 2023, la gestion des déchets a coûté 80 millions de francs à la mairie. Bayar Issiaka Solihi, de l'Agence régionale de gestion des déchets, explique que l'agence se concentre sur les 3 capitales, bien qu'il y ait 54 communes. Pour la mairie, cette agence est inefficace. Abdallah Mzembaba, Moutsamoudou, RFI.
Ce reportage à réécouter sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
Afrique Matin.
À la une de l'actualité internationale de ce lundi 1er juillet, le Rassemblement national largement en tête du premier tour des élections législatives françaises. Le parti d'extrême droite récolte un peu plus de 33% des suffrages, 5 points devant les partis de gauche unis sous le nouveau Front populaire. Le parti présidentiel arrive, lui, troisième avec un peu plus de 21%. Édition spéciale à suivre ce matin sur RFI et résultat complet sur RFI.fr. La Hongrie prend ce matin la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour les 6 prochains mois. Le gouvernement de Viktor Orban promet d'agir en médiateur impartial en toute loyauté avec l'ensemble des États membres. Une manière de rassurer nombre de capitales européennes inquiètes des dérives antidémocratiques de ces dernières années, notamment sur les libertés d'expression et de la presse. L'archipel des Caraïbes sous la menace de l'ouragan Beryl. Des vents à plus de 200 km/h avancent notamment vers la Barbade. La tempête doit toucher terre dans les heures qui viennent. Le Centre national des ouragans aux États-Unis pointe des risques mortels à l'approche de Beryl. Il est aussi très rare qu'une tempête aussi puissante souffle alors que la saison des ouragans vient à peine de commencer. Et puis du football, la suite des huitièmes de finale de l'Euro. La France affronte la Belgique tout à l'heure à 16h temps universel, tandis que le Portugal se frottera à la Slovénie. Direction à présent les bords du lac Albert qui sépare la République démocratique du Congo de l'Ouganda. Et c'est l'un des lacs les plus riches en poissons de la région. Mais la surexploitation menace le renouvellement des stocks. Les autorités congolaises ont pris des mesures pour sauvegarder la ressource. Mais cela accroît la concurrence avec les pêcheurs de l'Ouganda voisin. Dans le village congolais de Kasseni, la pêche n'est plus ce qu'elle était. Premier de nos deux reportages Afrique Économie de Coralie Pierret sur les rives du lac Albert.
Une dizaine de pêcheurs hissent la pirogue jusqu'à la berge. La pêche est maigre ce matin de mai à Kasseni. Nombreux sont les résidents qui se sont tournés vers l'import-export, explique un manutentionnaire.
Comme les pêches, c'est le principal travail d'ici. Mais notre pêche d'aujourd'hui ne donne pas de poissons, tout ça. On ne sait pas s'il y a les manquements des matériaux pour les pêches ici.
La RDC a interdit l'utilisation de certains filets à petite maille. L'objectif, lutter contre la surpêche et favoriser la reproduction des poissons. Des zones de frayeur ont aussi été délimitées. Régulièrement, les services congolais détruisent les matériaux hors normes et arrêtent les pêcheurs illégaux. Mais en face, côté ougandais, les règles sont différentes.
Les poissons viennent de l'Ouganda, car ici, au Congo, il y a beaucoup de patrouilles.
Depuis son étal, Tina détaille son commerce de vendeuse de poissons.
Il y a des gens qui pêchent en Ouganda, d'autres qui achètent et qui nous ramènent le poisson ici. Nous, les vendeuses, nous achetons en gros. Puis nous vendons au détail aux clients de Bunia, Mongwalu, Komanda, Mambasa, Beni, Ocha. Nous amenons les poissons de l'Ouganda jusqu'ici au Congo.
Résultat, la concurrence est rude et les pêcheurs congolais se retrouvent souvent sans emploi. Christophe Lonama est le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo.
Nous avons un constat amer, comme il y a baisse de production. S'il y a baisse de production, vous voyez, ça va créer maintenant le chômage. C'est ce qui n'est pas bon. Dans les années avant, les poissons de la Calvaire, on l'exportait un peu partout, comme il y avait quantité. Alors maintenant, là, il y a une diminution sensible de quantité de poissons. Il y a même disparition de certaines espèces dans les lacs. Et suite au non-respect des zones de frayère, et suite à l'usage des filets prohibés.
Le lac Albert est déjà considéré comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature en raison de la pollution liée à la présence humaine autour du lac. Le projet pétrolier de Total sur les rives du lac côté Ouganda inquiète aussi les écologistes. Coralie Pierret, de retour de Kasseni, RFI.
(3h52) en temps universel, 5h52 ici à Paris. La chronique des matières premières. Depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan, les talibans n'ont pas oublié de se pencher sur le potentiel minier du pays. Ils auraient conclu plus de 200 accords pour une valeur de plusieurs milliards de dollars selon une étude rendue publique par le Financial Times. C'est la chronique des matières premières signée Marie-Pierre Olfan.
Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont signé en moyenne un contrat minier par semaine. À ce jour, les quelques petits gisements exploités sont essentiellement située dans la province orientale de Nangarhar et ce n'est pas pour rien. Le sol y est riche en chromite utilisé pour des alliages et en néphrite, la variété de jade la moins précieuse. On trouve ces minerais dans des gisements de surface qui peuvent être exploités de manière techniquement très simple, sans investissement extraordinaire. Ces exploitations fournissent par ailleurs des minerais qui peuvent être commercialisés à l'état brut, sans traitement particulier, si ce n'est un tri manuel pour constituer des lots de qualité différentes. En août dernier, les autorités ont également annoncé la conclusion d'une quinzaine de plus gros contrats relatifs là essentiellement à des gisements de fer. Parmi les bénéficiaires, on trouve des Afghans, des Chinois, des Iraniens ou encore des Turcs, mais aucun investisseur réputé à l'international. Avec ces nouveaux contrats, les autorités espèrent répondre aux immenses difficultés financières du pays. Mais si le potentiel minéral est considérable, la part de la ressource qui est exploitable techniquement et économiquement rentable est beaucoup plus floue. Le dernier inventaire détaillé du patrimoine minéral afghan a été publié par les services géologiques américains. Il remonte à 2011 et se fonde largement sur une compilation de données soviétiques. Pour que le secteur minier devienne un jour la colonne vertébrale de l'économie afghane, il faudrait que l'exploitation change d'échelle et sorte des pratiques artisanales et semi-industrielles actuelles. Mais cela implique le développement de compétences humaines, de technologies complexes et des milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures que personne ne paraît engagé à faire pour l'instant.
Marie-Pierre Olfant. 3h55 temps universel, on retrouve nos confrères de la Première sur l'île de la Réunion. Le résultat des élections législatives révèle la percée du Rassemblement national dans le département. Bonjour Tiziana Maron.
Bonjour. Le parti d'extrême droite arrive en ballottage dans la première circonscription. Par exemple, le candidat RN Jean-Jacques Morel affrontera au second tour Philippe Naillet du Nouveau Front Populaire, arrivé en tête avec 46,5% des votes. C'est en tout cas la première fois qu'un candidat du Rassemblement national arrive au second tour d'une élection à l'île de la Réunion. Et nous restons à la Réunion pour le début de la campagne sucrière. Bientôt, ça sera le retour sur les routes des tracteurs chargés de canne à sucre. Vendredi dernier, la commission mixte de l'usine de Bois-Rouge a défini la date du début des essais. La livraison des premiers échantillons est prévue ce mercredi pour effectuer les tests techniques préalables au lancement de la campagne sucrière. Le reportage d'Ophélie Maraval de Réunion la Première.
Après une campagne sucrière 2023 chaotique marquée par un mois de retard, à l'issue de la commission mixte d'usine, Marc Thierry, responsable agricole de la sucrerie de Bois-Rouge, se veut rassurant.
On est plus à l'aise que l'année dernière, hein, parce qu'on avait un retard très important avec les travaux dans l'usine. On aura peut-être quelques mauvaises surprises, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. On va démarrer assez tôt, donc on est plutôt serein pour l'instant.
L'an dernier, sur le bassin nord-est, 700 000 tonnes de canne avaient été broyées. Pour cette nouvelle campagne, le tonnage est estimé entre 695 et 787 000 tonnes à Bois-Rouge. Les planteurs craignent une année morose. Guillaume Cellier, président des jeunes agriculteurs.
On se pose la question de la maturité de la canne. Comme on a commencé très tard l'année dernière, on a fini très tard. Ça risque d'avoir des répercussions sur la richesse en teneur de sucre des cannes coupées en ce début de campagne. Il ne faut pas oublier qu'on a subi le cyclone Belal. Tout ça mis bout à bout fait que on n'est pas dans les meilleurs auspices pour débuter la campagne sereinement.
Une volonté de retrouver un peu de sérénité après plusieurs années mouvementées.
La campagne sucrière qui devrait donc débuter la semaine prochaine. Cap sur Mayotte, à Kanikili, commune du sud de l'île, une fresque a été inaugurée samedi à l'école primaire du village de Chungi. Objectif, sensibiliser aux bienfaits des fruits et légumes. Le projet a duré 3 ans et ce sont les enfants qui ont réalisé la fresque. Le reportage de Oumadi Abdallah de Mayotte la Première.
C'est une fresque riche en couleurs et représentant un jardin potager qui a été réalisé par les jeunes de l'école primaire de Chungi.
J'ai découvert qu'on doit toujours manger des légumes et des fruits pour bien grandir. On ne doit pas manger des trucs qui ne sont pas sains.
Je mange des légumes parce que c'est bon pour la santé, pour manger tous les jours.
Ravis, les parents saisissent eux aussi l'importance d'une alimentation saine pour leurs enfants.
On a constaté qu'à la maison, les enfants sont frites, hamburgers, pizzas et les légumes, ils ne les connaissent pas. À travers ce projet-là, ils ont planté avec les parents tout en expliquant c'est quoi la valeur et les vertus de cette plante-là, de ce légume-là. Et on a voulu le concrétiser par réaliser une fresque murale.
En plus des chants et des danses, les jeunes artistes ont pu se régaler avec un buffet 100% bio et local.
Oumadi Abdallah de Mayotte, la première. Retour à La Réunion pour terminer. Cela fait 8 ans que les élèves d'une classe de Saint-Leu participent au projet autour d'une aire marine éducative, projet piloté par la réserve naturelle marine. Les différentes générations d'élèves qui se sont succédées depuis 8 ans étaient réunies ce week-end sur la plage de Saint-Leu, dans le sud de l'île, pour un retour d'expérience. C'est une action très concrète, explique Véronique Léandre, l'enseignante qui porte ce projet aire marine éducative depuis son début. Elle est au micro de Sophie Persson de Réunion La Première.
Les élèves sont amenés à travailler avec des scientifiques. Ils gèrent une zone plage et une zone maritime. Et ils doivent l'évaluer avec les scientifiques, voir quelles sont les problématiques et en fonction des problématiques, proposer des actions à mener, proposer des solutions.
Et c'est le mot de la fin de cette édition. Bonne journée.
Et Afrique Matin touche à sa fin. À la réalisation ce matin, Oscar Jouxtel, rédaction en chef Édouard Dupénoit. Restez bien avec nous dans quelques secondes, c'est RFI Matin qui commence. Avec vous, Arnaud Pontus. Bonjour Arnaud.
Bonjour à vous François Ballarin. Et à tout à l'heure, bien sûr, RFI Matin jusqu'à 10h de Paris pour vous parler beaucoup ce matin de politique française au lendemain de ce premier tour des élections législatives. Après cette campagne éclair, eh bien, une extrême droite en tête est très largement 33% des voix à peu près. C'est plus que le nouveau Front Populaire, beaucoup plus que le camp présidentiel. Analyse, reportage, invité tout au long de cette matinée avec des éditions spéciales à suivre avec l'ensemble de la rédaction. Tout de suite, le journal.